France Info. La politique jusqu'à 9h sur France Info. Toute l'équipe est réunie autour de Jean-Michel Apathy. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Guy Birenbaum, Gilles Bornstein avec vous et votre invité en studio.
Bonjour Olivier Besancenot.
Bonjour.
Dans 2 mois exactement, nous voterons pour le premier tour de l'élection présidentielle. Vous avez officiellement un candidat, Philippe Poutou. Mais est-ce qu'il sera sur la ligne de départ? On se pose la question. Est-ce qu'il aura les parrainages?
Ça, je peux pas répondre à cette question-là maintenant. On se bat pour les avoir. On a dépassé la moitié. Il y a un risque qu'on les ait pas. Il y a encore un espoir qu'on les ait. Ça sera ric-rac, quoi qu'il en soit. Vous savez comme moi que les règles ont été durcies. Hein. Elles étaient déjà compliquées dans un système qui est déjà un peu absurde. C'est le parrainage des maires. Là, cette fois-ci, les maires devront directement envoyer leur parrainage à la préfecture. Et surtout, il y aura une annonce publique au fil de l'eau, ce qui va mettre un petit peu plus la pression sur les maires. Et vous savez que pour des partis comme nous, évidemment, c'est dans les petites communes qu'on va, puisque dès qu'on tombe sur des grosses agglomérations, on tombe sur le contrôle des partis institutionnels qui ont la consigne de ne parrainer que leur propre parti. Donc nous, on repréconise un autre système. Ce serait un système de parrainage citoyen, populaire. On peut discuter du chiffre, du nombre. Il y a d'autres pays qui le font, mais ce serait quand même beaucoup plus démocratique si on veut sélectionner à l'entrée, d'imaginer un système de parrainage populaire, parce que les maires en aura le bol, les organisations comme les nôtres en aura le bol, et puis derrière ça, au-delà de ce qu'on pense du NPA, de Philippe Poutou, de notre organisation, de notre courant politique, il y a quand même l'idée que un des rares qui n'est pas politicien professionnel dans cette campagne, bah comme par hasard, c'est un des rares qui a des difficultés à obtenir ses signatures. Mmh. Et lui, il est ouvrier dans l'industrie. C'est un des rares à savoir de quoi il parle quand il parle justement des questions d'emploi, de chômage, de l'industrie qui s'en va, de toutes ces choses-là.
Donc chaque élection présidentielle, votre courant de pensée, votre parti était représenté, là, il pourrait donc ne pas l'être.
Il pourrait l'être aussi. Voilà, c'est une bataille, mais c'est pour ça que je profite de l'antenne pour continuer à nous adresser à tout le monde, y compris d'ailleurs aux organisations politiques de gauche, en disant pourquoi ne pas lever cette espèce d'oukase qui consiste à dire ne donnez pas aux autres partis. J'entends que tous les autres candidats l'ont. Voilà, j'entends que Jean-Luc Mélenchon, il est à je sais pas combien. Toutes les autres promesses de signature, pourquoi par exemple, il dirait pas, bah, puisque moi je les ai, ce serait bien que Philippe Poutou puisse être aussi candidat. Après
vous
tout, il y a bien une gauche à sa gauche.
Vous leur dites quoi pour justifier que vous...
C'est des bases démocratiques, hein. Nous on leur met pas une disquette dans la tête sur la base de notre programme, c'est aux maires, on leur dit tout simplement, voilà, c'est est-ce que vous pensez que c'est juste et cohérent qu'un courant politique comme le nôtre, aussi petit soit-il, mais qui est présent le restant de l'année, puisse être présent à cette échéance-là? En tous les cas, le fait qu'il y soit pas, est-ce que ça poserait pas un problème démocratique? Et ça poserait un problème démocratique supplémentaire par rapport à la crise politique qu'on connaît, la crise de représentation politique qu'on connaît, qui est quand même vachement plus forte à cette élection-là qu'aux élections précédentes. On voit toutes les mobilisations qui commencent à débuter sur les questions de corruption, de représentation politique. Enfin, il y a quelque chose de très très fort sur l'idée, est-ce que oui ou non, la politique est affaire de politiciens professionnels? Est-ce que oui ou non, on se condamne nous-mêmes à accepter l'idée qu'il y a un corps qui se détache de la société pour être professionnel de la politique, pour décider de nos vies, alors que la plupart ne la connaissent même pas.
En fait, l'exemple Trump vous plaît bien, c'est-à-dire pas de professionnel de la politique.
Non, pas franchement, parce que Donald Trump,
là,
justement...
C'est pas un professionnel de la politique, lui.
Pour moi, il n'y a pas plus politicien et candidat système.
Ah, c'est autre chose, ça.
Non, mais les deux.
Mais il n'a pas fait de la politique avant.
La politique, vous savez, pour moi, c'est pas
c'est
simplement...
C'est son premier mandat.
Oui, oui. Non, j'ai compris, mais enfin, moi, il a franchement une tête de novice. Enfin, je ne veux pas focaliser d'ailleurs sur sa tête et sur son profil en particulier, que vous montrez en plein écran en ce moment, même si c'est tentant. Mais pour moi, la classe politique, c'est aussi, vous savez, ces allers-revenus entre, d'un côté, des conseils d'administration de grandes entreprises, que connaît bien M. Trump, et puis de l'autre côté, une classe politique qui a fait ses écoles avec. Voilà, vous lisez par exemple les sociologues, les Pinson-Charlot, vous expliquent à quel point la classe politique...
C'est le manque de diversité.
Ouais, ça va même, je crois, au-delà. C'est vraiment, eux, les sociologues, les Pinson-Charlot, ils parlent par exemple de consanguinité de la classe politique. C'est des gens qui ont grandi ensemble, qui ont fait les mêmes écoles, qui connaissent les mêmes cercles,
avec
les mêmes clubs.
Avec les
mêmes cercles que les grands capitaines d'industrie. Donc j'insiste là-dessus parce que j'ai entendu justement à gauche sur de Donald Trump, certaines personnes dire à l'époque, je me souviens, allez, il y a des ouvriers qui votent sur des questions économiques pour Donald Trump. Ils ont envie de voter contre le système, justement, parce que ce serait pas un politicien professionnel. Dans la gauche radicale, j'ai entendu des intellectuels, des figures le raconter.
Il n'y a pas de nom.
Et puis finalement, quelques semaines après son élection, Wall Street faisait des bons records. Donc, comme candidat anti-système, on repassera quand même.
Gilles Bonchon. Si vous n'aviez pas vos parrainages, qui soutiendriez-vous?
Avec des si. On coupe du bois.
Non, mais bon.
Là, vous faites le politicien professionnel.
Est-ce qu'une seule candidate d'extrême gauche ça suffit pas, et puis ça donnerait peut-être plus de force plutôt que de séparer vos voix sur deux candidats, de les rassembler sur une seule.
Bah, la question Nathalie de la fédération des forces anticapitalistes, c'est une vieille question. Nous, on pensait qu'elle était, posée notamment autour de la mobilisation Nuit Debout, par exemple. Mmh. On s'adressait à Lutte Ouvrière, qui a pas voulu en entendre parler, qui pensait que c'était son propre courant. Jean-Luc Mélenchon, visiblement, avait rendez-vous avec l'histoire et avec la France, donc il a pas voulu non plus en entendre parler, si ce n'est derrière sa propre candidature. Donc l'idée d'une fédération par le bas, c'est une idée qui, de toute façon, sera posée à tous et à toutes, parce que la crise politique, elle va pas s'arrêter avec 2017, elle va connaître une nouvelle page. Rien ne se passera comme prévu en 2017. Donc soit ce sera un cataclysme, soit ce sera un bing-bang démocratique et politique, faudra peut-être s'atteler à ça, et nous, c'est à ça qu'on s'attelle. Donc moi, je me dis sans marrer, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui... c'est pour ça que je peux vraiment pas répondre à cette question. Quand vous avez des centaines de militants qui sont pas des militants professionnels, qui sont pas payés pour le faire, qui sillonnent toute la France en dehors de leur boulot pour arracher des signatures, c'est pas pour que je vous lâche à l'antenne. Bah si, on les a pas, vous voyez. C'est nous, on est en train vraiment de mener cette bataille-là comme une bataille démocratique qui concerne tout le monde.
La division de la gauche anticapitaliste, comme vous l'appelez, est quand même assez extraordinaire.
Elle vous fascine quand vous dites extraordinaire, c'est dans le sens
c'est-à-dire, premier du terme. On pourrait penser que ce qui vous réunit est plus important que ce qui vous divise.
On serait même en droit de le penser,
monsieur Apathy. Pour employer un classique, mais en fait, non.
En fait, on a un problème, c'est que la tentative qu'on a fait à chaque fois, je dirais, par en haut, c'est-à-dire les discussions de direction à direction, je crois qu'elle bute, moi je vais mettre les pieds dans le plat sur une question essentielle, qui sont les questions liées au pouvoir, même à notre échelle, ce qui prouve que les crises de représentation politique concernent même la gauche radicale. Si on veut s'atteler à la question du pouvoir, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne devienne pas un obstacle. Alors, il faut envisager des solutions stratégiques pour que le pouvoir devienne partagé. Nous, c'est une des raisons pour lesquelles, dans cette campagne, à travers la candidature de Philippe, on essaye de mettre en avant la question de la déprofessionnalisation de la politique. Je crois qu'on fait partie des rares courants à mettre ça en avant. Ça veut dire, concrètement, par exemple, en plus d'autres propositions, de constitutionnaliser la rotation des mandats. On fait deux mandats au cours de sa vie, ensuite on retourne au boulot. Et surtout, il y en a qui trouvent ça démagogue, mais nous on l'assume, de plafonner la rémunération des élus à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population, puisque les élus sont censés nous représenter. Il n'y a pas de raison qu'ils gagnent plus d'argent que la majorité de la population.
La suite des propositions du candidat Philippe Poutou et de son soutien Olivier Besancenot, juste après l'info à 8h40. Victor Maté.
Une augmentation de 15% en moyenne à partir d'aujourd'hui pour le paquet de tabac à rouler, mesure annoncée en septembre dernier par le gouvernement. Cela représente jusqu'à 1,50€ en plus pour certaines marques. Figure du syndicalisme, homme d'engagement, interlocuteur incontournable, toute la classe politique salue la mémoire de Xavier Belin, le président de la FNSEA, principal syndicat agricole français, est décédé d'une crise cardiaque. Il avait 58 ans. Rassurer l'Union européenne sur son rôle de partenaire privilégié des États-Unis. Le message que va une nouvelle fois faire passer Mike Pence, le vice-président américain, termine sa tournée européenne par des rencontres à Bruxelles avec les dirigeants de l'UE, mais aussi de l'OTAN. Monaco toujours en tête de la Ligue 1 de football, 3 points devant le PSG, les Parisiens tenus en échec, 0-0 au Parc des Princes hier soir par Toulouse. Et puis un peu moins de 230 000 euros pour le téléphone d'Adolf Hitler, ce téléphone rouge à cadran qui servait au dictateur à donner ses ordres à travers l'Europe. Il a été vendu aux enchères à New York.
France Info. Olivier Besancenot est l'invité politique de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy.
Pendant ce temps, la gauche traditionnelle court après son unité. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, visiblement, le dialogue a tourné court. Écoutez, Benoît Hamon, hier, c'était sur LCI.
Voilà, poser des conditions qui sont des conditions fortes. C'est vrai que si on fait du covoiturage et qu'on décide que l'on conduit, la couleur des sièges et que les autres descendent au premier feu, ça marche rarement le covoiturage dans ces conditions-là.
Bon, donc pas d'union. Ça vous fait marrer? Pourquoi?
J'avais pas entendu l'image.
L'image du covoiturage, oui. Benoît Hamon trouve que Jean-Luc Mélenchon décide un peu de tout seul.
Ouais, non, mais je pense qu'ils sont en compétition politique un peu sur le même terrain, comme vous le disiez d'ailleurs. Je pense que, au-delà du cas Hamon-Mélenchon, je pense que là, je vous parlais des perspectives politiques, si on essaie un minimum de prendre de hauteur. Je crois qu'on va vers une grande recomposition politique à gauche. Je crois qu'il y a 3 pôles qui vont se dessiner. Clairement assumé, c'est une nouveauté par rapport aux années précédentes. On va avoir un pôle libéral à gauche complètement assumé autour de Macron, une partie du Parti Socialiste, Ségolène Royal, Manuel Valls, j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux, mais en tous les cas, il y aura ce pôle-là. Il y aura un pôle qui va vouloir refaire la social-démocratie un petit peu à l'ancienne, avec peut-être une compétition entre Hamon et Mélenchon. Qui va savoir s'ils arriveront à se mettre d'accord. Mélenchon. Et puis il y a un troisième pôle, moi c'est celui qui m'intéresse, dont on sent beaucoup orphelin aujourd'hui dans des organisations politiques, y compris du PC, du PG, de Lutte Ouvrière, chez des libertaires, chez des syndicalistes, chez des militants de quartier, chez des gens 100 partis qui ont participé, par exemple, à la mobilisation loi travail, ou qui ont été manifestés samedi pour justice, pour Théo, qui ont été manifestés contre la corruption dimanche, et qui se disent, on est orphelin d'une représentation politique aussi décomplexée dans notre propre camp à nous. Donc nous, le message qu'on essaye de délivrer, parce qu'on a bien conscience que c'est pas le NPA lui seul qui peut être cette représentation politique-là, c'est justement d'avoir cette démarche qui combine les questions sociales, les questions démocratiques, mais en effet, je crois qu'on va vers ce chamboulement de l'échiquier politique.
Trois blocs, c'est une impuissance politique.
Je ne sais pas si c'est une impuissance politique, c'est probablement beaucoup de clarté en tous les cas. Donc on verra ce que l'avenir nous dira. Le problème, c'est qu'on ne peut pas imaginer une recomposition politique, comment dire, se cristalliser et se consolider simplement à partir d'une échéance électorale. Puisque là, vous savez, il y a Rosa Luxembourg, une grande révolutionnaire, qui disait ça. Le monde est en train de se déliter pan par pan et la plupart des gens s'en rendent pas compte et continuent à croire qu'ils avancent sur un sol ferme. Et quand vous regardez la classe politique, on a cette impression-là, même à gauche. Donc de toute façon, ce système est à bout. Quand, comment il va craquer, j'en sais rien, mais de toute façon, il en fondera un nouveau. Donc l'histoire des blocs dépend aussi de ce qui se passe dans le pays, de ce qui se passe dans l'opinion, de ce qui se passe à la base, de ce qui se passe au jour le jour, de ce qui se passe aussi dans les mobilisations sociales.
Il y en a peu.
Vous voyez, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que justement, il n'y en a pas peu. Vous regardez d'abord sur les services publics, il y a une multitude de mobilisations locales, je pourrais vous en parler notamment dans le domaine de la Poste, plus tard que... Mercredi prochain, il y aura un rassemblement pour défendre un bureau de poste à Crimée dans le 19e, mais vous pouvez prendre dans les régions, dans les campagnes, c'est la même chose. C'est vrai dans le domaine hospitalier, c'est vrai sur des questions écologiques par rapport à des projets qui sont jugés inutiles, c'est vrai dans les quartiers populaires par rapport aux questions des violences populaires, c'est vrai sur la question d'emploi.
Policière, et puis, pas les violences populaires.
Les violences policières.
Oui, excusez-moi de cela,
c'est
un peu maladroit.
Mais en tous les cas,
la mobilisation, pour revenir à votre question, vous savez, il y a eu un numéro de passe-passe dans cette campagne qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'il ne s'est rien passé autour de la loi travail. Ça, c'est une illusion, vraie illusion.
En tout cas, on a vécu 4 mois sans... elle a été adoptée.
Vous avez eu raison de vous reprendre vous-même.
Mais voilà.
C'est très bien d'avoir l'honnêteté. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, j'ai fait un lapsus, il n'était pas beau. C'est bien de vous reprendre vous-même. Il n'a pas été voté, il est passé au 49-3 et ça a laissé des traces. C'est-à-dire que pendant 4 mois, je crois qu'on a gagné la bataille de l'opinion, mais au-delà de la bataille elle-même, je crois qu'il y a des réflexes qui ont été pris dans cette mobilisation. Le fameux chemin des convergences qu'on attendait depuis des années, il a commencé à se cristalliser. Et surtout, je termine là-dessus, l'occupation des places. Je peux vous dire un truc, c'est qu'il y aura de nouveau des mobilisations sociales à un moment ou à un autre, et on n'attendra pas 1000 ans pour réoccuper les places, par exemple.
Est-ce que vous n'avez pas raté le coche, vous, ce personnage, d'incarner cette mobilisation à gauche? Je pense ça il y a 12 ans maintenant, après 2005, ces discours, on entendait exactement les mêmes. Ces différents pôles, ces différents blocs, ces convergences dans une lutte, est-ce que ce n'était pas à vous d'incarner ce mouvement-là?
Deux problèmes. D'abord, la situation n'était pas tout à fait la même à l'époque. Je pense que, par exemple, le Parti Socialiste n'en était pas arrivé à l'état de décomposition et de crise politique auquel on en est arrivé maintenant, mais aussi parce qu'il y a toutes ces années qui sont passées. Et deuxièmement, moi, c'est ma marque de fabrique, ça peut agacer ou pas, j'en sais rien, mais pour moi, le problème, il se pose précisément pas en termes d'incarnation. Si on le prend par le biais de l'incarnation, on retombe dans le problème du haut que j'évoquais tout à l'heure, qui est le point de blocage pour fédérer les forces anticapitalistes, c'est-à-dire, on attend le leader, on attend le nouveau chef, et moi, je ne pense pas que ça soit d'un chef ou d'un leader dont on est orphelin aujourd'hui, c'est simplement de la conscience qu'on peut écrire notre propre destin, par le bas, en fédérant les forces. Et à partir de là, oui, on pourra imaginer qui peut prendre la parole ou non. Mais tant qu'on reste dans ce registre, enfin, comment dire? Pas jouer les vieux combattants, mais des élections présidentielles, j'en ai vécu quelques-unes, j'en ai vu aussi quelques-unes. Et là, on est dans un état de personnalisation de personnalisation à l'extrême, jusqu'à la primaire, jusqu'à l'hologramme. On est là à dire, en gros, on s'adresse aux gens en disant, votez pour moi, je vais régler les problèmes à votre place. C'est-à-dire, on est dans le processus de délégation de pouvoir posé, je dirais, à l'extrême. Et pour moi, la délégation de pouvoir, ça fait pas partie de la solution parce que ça fait partie du problème depuis le départ.
Même les mouvements collectifs, comme en Espagne, ont une incarnation aujourd'hui. Mais
plusieurs.
Avec Iglesias, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Et ça empêcherait pas qu'il y en ait plusieurs, mais votre personnage au milieu de ça.
Mais par exemple, une organisation comme Podemos, que vous citez, que je connais bien, elle a plusieurs représentations politiques. Alors, il y en a une qui est forte, en effet, Iglesias, qui prend beaucoup de place. Ça pose aussi des débats et des discussions au sein de Podemos, d'ailleurs. Mais il y a quand même une pluralité de la représentation. Enfin, je veux dire, un mouvement comme Podemos a fait surgir sur le devant de la scène des tas de visages qu'on ne connaissait absolument pas avant.
Olivier Besancenot, toutes ces questions sur l'incarnation, comme le rappelait Nicolas Taillard, ça fait des années qu'on en parle. Et puis là, vous vous retrouvez en face de vous, il y a Marine Le Pen. Mmh. Elle est là. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et rien.
Cette incarnation politique-là, moi, je la connaissais déjà à l'époque. Donc le problème, si elle s'est aggravée depuis, ce risque politique-là, C'est bien parce qu'aujourd'hui, les gens font plus la différence entre la gauche et la droite. Pas forcément à cause de la droite quand elle était au pouvoir.
Mais c'est aussi votre échec?
Non, franchement, moi je veux bien toutes les vannes du monde, toutes mes responsabilités, les prends. Mais là, franchement, c'est pas du même acabit. Quand la droite est au pouvoir, elle mène une politique de droite. On peut reconnaître au moins ça à Nicolas Sarkozy. Quand la gauche est au pouvoir, elle mène une politique de droite. Et c'est pour ça que les gens font plus la différence entre la gauche et la droite. Donc nous, on prend notre part de responsabilité, mais que notre part de responsabilité. Les responsables du Parti Socialiste qui ont été au pouvoir et qui ont piétiné leurs promesses, qui ont piétiné, je dirais même, une certaine filiation de l'histoire du mouvement social et du mouvement ouvrier, c'est eux qui portent la responsabilité de la situation actuelle.
La victoire de Marine Le Pen, c'est une possibilité ou c'est de la propagande?
Les accidents ne sont plus à exclure. Les accidents ne sont plus
exclusifs. À ce moment-là, deuxième tour, Fillon-Le Pen ou bien Le Pen-Macron, vous prenez vos responsabilités, vous choisissez ou bien vous allez... La formule a été employée ce week-end à la pêche.
Moi, j'ai toujours pris mes responsabilités, mais surtout, si on continue à prendre la discussion par le biais du deuxième tour, on est sûr qu'on va se planter. Parce que la crise, elle est tellement profonde, la crise qui explique l'ascension de Marine Le Pen aujourd'hui, elle est tellement profonde à gauche que si on... Quand je dis « on », c'est notre camp politique. Hein. Si on se cantonne dans la discussion à se dire « comment on va continuer à faire barrage à Marine Le Pen ?», alors c'est cramé, c'est mort. Parce que ça va être le registre habituel de ceux qui vont arriver en tête et qui vont dire « votez pour nous » et on va régler quoi ? Rien du tout.
Un électorat populaire pour Marine Le Pen ?
Oui, mais l'électorat populaire,
c'est-à-dire
pour l'instant,
des gens
il sait pas
à qui
quoi
vous
voter.
Vous adressez. Et qui,
non mais j'ai bien constaté, Jean-Michel Apathy,
et qui
ça m'a pas
échappé. Marine Le Pen.
C'est-à-dire que des gens qui votent Le Pen et qui s'adressent à moi, qui discutent avec moi, ouais, bien sûr, j'en connais. Mais ce que je constate surtout, peut-être plus que les dernières fois, parce qu'il y a aussi peut-être comme une petite déformation politique et médiatique malgré tout, c'est de comprendre que l'électorat populaire, pour l'instant, il va pas aller voter, je crois. Ou il sait pas pour qui voter. Et il est largué, il en a ras-le-bol. Et nous, quand on s'adresse par exemple aux maires des petites communes dont je vous parlais, c'est aussi une réfraction malgré tout de ce que pense une partie de l'opinion. Hein. Dans les raisons pour lesquelles ils ont du mal à donner un parrainage, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ils pensent que c'est un spectacle, que c'est devenu insupportable, et en grande partie, ils ont bien raison.
Bon, c'est bien déprimant tout ça. Hein.
Non, parce qu'il y a de l'espoir. Je suis là pour pouvoir en donner. Jean-Michel Apathy, j'aimerais pas que vous partiez. Déprimé, on se
débrouille. Non, mais ça va aller.
Moi,
ça
non,
va aller.
Mais en fait, je pensais plutôt à vous.
Ah non, moi, ça va.
Ça va.
Non, vous savez, on.
Bon, maintenant que j'ai
fait
de nouvelles, ça va mieux aussi.
Alors, encore 10 minutes d'espoir, juste après l'info, 8h50, Victor Maté.
Il s'était largement fait connaître du grand public pendant la crise agricole de l'été 2015. Xavier Belin, 58 ans, est décédé victime d'une crise cardiaque. Le président de la FNSEA devait briguer un troisième mandat à la tête du principal syndicat agricole français. Des ingénieurs, mais aussi des candidats à des postes moins qualifiés, Amazon souhaite créer 1500 emplois en CDI supplémentaires. Et ce, d'ici à la fin de l'année, le géant américain du commerce en ligne compte déjà plus de 4000 salariés en France. Pour la première fois, Marine Le Pen, reçue par un chef d'État en exercice, ce sera aujourd'hui. La présidente du FN doit rencontrer à Beyrouth le président libanais. En Irak, l'offensive de l'armée pour reprendre la partie ouest de Mossoul se poursuit. Les militaires veulent chasser les djihadistes de leur fief. Les organisations internationales, elles, s'inquiètent du sort des 750 000 civils qui restent dans la ville. Quelques occasions en seconde période, mais cela n'a pas suffi. Le PSG rate l'occasion de revenir à un point du leader en Monaco. Les Parisiens tenus en échec 0-0 par Toulouse. C'était le tout dernier match de la 26e journée de Ligue 1 de football.
France Info. Il est en quête de parrainage pour son candidat, Philippe Poutou, candidat à la présidentielle. Olivier Besancenot est en face de vous, Gilles Bornstein.
Oui, la colonisation en Algérie était-elle, oui ou non, un crime contre l'humanité? Comme l'a dit, qui vous savez?
Emmanuel Macron,
c'est pour qui a dit ça?
Emmanuel Macron.
Mais c'était avant de se rétracter ou pas? J'ai pas compris.
Il s'est vraiment rétracté.
Il s'est excusé, ouais, je sais pas, non, faut quand même un GPS pour suivre ses déclarations.
Crime contre l'humanité ou
oui,
pas?
Oui, je pense que c'est un crime contre l'humanité. Je pense que le colonialisme, au même titre que l'esclavage, font partie de ces crimes contre l'humanité. Bien sûr. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'on puisse pas en discuter de façon apaisée. Je pense que la société française, là je vais même au-delà de l'État, hein. Je pense que la société française a du mal à faire son travail de mémoire. On est une des rares sociétés dans le monde à avoir du mal à faire ce travail de mémoire. Voilà, donc je pense qu'il y a... Comment dire, je ne vais pas trouver des inspirations qui risquent de vous inquiéter, mais quand Jacques Chirac, au 53e anniversaire de la rafle du Veldiv, dit voilà, il y a eu des Français et l'État français qui ont pris part à la politique de collaboration, je pense que c'était important de faire ce travail de mémoire et je ne comprends pas qu'on ne soit pas en capacité de le faire.
Olivier Besancenot, d'accord ce matin avec Emmanuel Macron et Jacques Chirac.
Non, pas Emmanuel Macron, vous avez bien noté, Jacques Chirac, c'est pire que ça, donc c'était vraiment pour redonner le moral à Jean-Michel Apathy, c'est vraiment dire à quel point je suis présent dans la discussion.
D'accord.
d'accord avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la vision que peut avoir Emmanuel Macron de ce problème-là vous paraît convenir? C'est un phénomène de génération? Comment vous l'analysez?
Non, justement, c'est pour ça que je vous dis la base d'accord s'arrête avec lui. Quand je vous dis c'est pas qu'une vanne, il faut un GPS pour le suivre, c'est qu'il dit ça, puis ensuite il s'excuse.
Mais il ne s'est pas excusé, il a maintenu.
Il a refusé, il a dit
qu'il avait mal compris.
Écoutez, moi j'ai lu ses déclarations, j'ai compris qu'ensuite il s'excusait.
Il s'est excusé d'avoir blessé.
Voilà, d'accord, ok, comme il est d'accord, il pense que ceux qui ont manifesté contre le mariage homosexuel, ils ont été bafoués par le gouvernement et en même temps il dit à la communauté homosexuelle qu'il va être le meilleur représentant. Bon, bref, à un moment, faut choisir. Donc ma base d'accord, si vous voulez, avec Emmanuel Macron, elle va pas très très loin, quoi, sur ces questions-là. Donc je vais avoir du mal ça va être compliqué de trouver des convergences avec Emmanuel Macron.
Ça ne va pas au-delà, mais il y a cette convergence
que vous avez soulignée à ma
reprise. Ponctuellement enregistrée, vous voyez, ça me donne le sourire.
C'est très important le sourire, Jean-Michel.
Vous voyez, tout va bien. il n'y a rien au-dessus du suffrage universel, c'est ce qu'a expliqué François Fillon hier.
Merci à vous tous, militants de la France, qui avez montré que vous ne vouliez pas vous laisser voler l'élection présidentielle. Ne nous laissons pas intimider, ni par les attaques, ni par les quelques manifestants qui voudraient nous empêcher de parler. Ils font du bruit. Nous, nous défendons un projet pour la France. Et en démocratie, c'est le suffrage universel qui décide et lui seul.
En démocratie, c'est le suffrage universel et lui seul qui décide.
Oui, et dans un système authentiquement démocratique, on aurait la possibilité, par exemple, de révoquer ses élus. En effet, le suffrage universel pourrait décider plein de choses.
Vous avez été choqué par ce que vous avez appris sur François Fillon ?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a choqué, précisément ?
Je vais vous dire, c'est l'aspect politique des choses, d'ailleurs, au-delà de l'affaire judiciaire. C'est l'aspect politique, c'est-à-dire que quand vous avez un candidat qui passe le plus clair de son temps, mais d'ailleurs, c'est pas le seul, il faut le reconnaître, à expliquer que la France vit au-dessus de ses moyens, et qu'ensuite, vous voyez des affaires où on parle de notes de lecture pour 100 000 euros, excusez-moi, mais c'est un crédit. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un crédit. Et encore, quand vous l'obtenez, 900 000 euros, c'est ce que vous obtiendrez pas au cours de votre vie tout entière. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de décalage. Pour ça que je parle d'aspect politique. C'est ceux qui s'adressent à nous, du haut de la société, en expliquant à 80% de la population, il faut faire des sacrifices parce qu'on n'a pas le choix. Et vous voyez l'envergure du gouffre. En effet, moi, c'est ça qui me choque. Mais une nouvelle fois, c'est le problème, moi... pas tomber dans le travers que je dénonçais tout à l'heure. Il faut pas personnaliser. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans cette discussion, c'est ce système politique qui peut produire ça. Tant qu'on aura un système politique où, en effet, on aura ce corps séparé dont je parlais, dont la politique est un métier, il y a des gens qui pourront faire carrière en politique, donc il y aura d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, des carriéristes. C'est pour ça qu'il faut déprofessionnaliser la politique. Après, vous avez deux solutions pour déprofessionnaliser la politique. Vous avez la solution Alain Minc, qui, sans rire, s'est adressé à nous pour dire, à un moment, on va falloir comme
ça.
Propose l'augmentation des indemnités.
J'ai failli en tomber à la renverse quand j'ai écouté ça. Dire, en gros, faut s'apprêter à les rémunérer correctement. Bien entendu. Puis il y a une autre solution qui consiste à dire, si la base de la discussion, c'est pas la personnalisation, c'est la démocratie, les gens qui nous représentent sont en fait des mandataires, d'ailleurs, plus que des représentants. Donc ils doivent être sous notre contrôle. Ils doivent, en effet, avoir un mandat qui leur permet pas de s'échapper du contrôle de la population. Donc un salaire, par exemple, à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population.
Vous savez bien, Olivier Besancenot, qu'au départ, la professionnalisation politique, c'était tout le contraire. C'était pour permettre aux gens qui n'avaient pas les moyens de faire de la politique, d'en faire. C'était des rentiers, c'était ceux que vous appelez les oligarques.
C'est pour ça que la professionnalisation, c'est bien ça dont je parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je fais pas démagogie. Si vous votez pour quelqu'un qui a un mandat, il doit pouvoir faire son mandat à part entière. Surtout à ce niveau-là, c'est une évidence. Donc, il doit être extrait du travail. C'est bien pour ça qu'il faut renforcer les moyens de contrôle démocratique. C'est pour ça que je parle de rotation. Instituer le fait qu'on fasse pas plus de mandats au cours de sa vie. Ensuite, on retourne au boulot, voire on y va tout court pour certains qui parlent de nos vies alors qu'ils les connaissent même pas. Voilà, ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de garde-fou individuel en la matière. C'est impossible de dire, moi, écoutez, vous me connaissez, je vais pas vous la faire à l'envers, votez pour moi, ayez confiance, comme dans le livre de la jungle. Personne, on ne peut pas rentrer dans ce registre-là. C'est des garde-fous et des garanties collectives. C'est bien pour ça que c'est un nouveau système démocratique qu'il faut inventer, qui combine suffrage universel et démocratie directe.
Chacun mène sa carrière politique à sa façon. La responsabilité personnelle de François Fillon est engagée dans cette histoire. Est-ce que ça aurait été mieux, selon vous, qu'il se retire ? Vous pensez qu'il a raison de dire et qu'il doit aller jusqu'au bout, et c'est les électeurs qui diront ce qu'ils pensent de son attitude ?
Moi, je peux pas dire ça. C'est pas mon camp. Je peux pas me permettre de dire... Mais comment dire ?
Ça vous est égal que son Fillon, hein,
Oui, mais perfidement, j'ai envie de dire, vas-y, fonce.
Ah, rapidement, d'accord.
Vas-y, fonce, parce que, je sais plus, il y a quelqu'un qui au travail m'a dit ça, c'est plus une élection, c'est toc chef, c'est, il y a tellement de casseroles que, bon, voilà, donc à droite, ça va être un concours de casseroles, peut-être à gauche aussi, de toute façon, on aura plein de surprises, donc voilà, comme c'est pas mon camp, on peut, mais le problème, je vous dis, au-delà des individus, c'est ce que ça révèle. Et à un moment, on peut plus faire comme si ça existait plus, parce que ça fait quand même quelques-unes, hein. Regardez le monde qu'il y a eu, malgré tout, place de la République encore dimanche, hein.
Dernière question. Il y a eu des manifestations suite à l'arrestation brutale de Théo, des manifestations qui ont dégénéré. Est-ce que vous condamnez ces incidents ?
Ben moi, j'étais place de la République samedi, ça n'a pas dégénéré. Là.
Un peu à la fin ?
Bah, écoutez, moi j'y étais, j'ai pas vu ça. Voilà, d'accord. Mais je peux vous dire qu'il
y a
un dispositif policier qui pousse à ça. Voilà, donc au-delà des manifestations qui sont là pour réclamer une mesure d'urgence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'impunité. Mmh. Qui est de la justice, parce que tant qu'il n'y aura pas de justice, c'est un slogan, mais il n'y aura pas de paix, je crois que c'est vrai. Voilà, c'est un vrai sujet tabou en politique. Le rapport des pratiques policières à la population et pas qu'aux jeunes des quartiers. Et peut-être que ce qui est en train de changer dans l'opinion, depuis l'affaire Rémi Fraisse, Adama Traoré, l'affaire Théo, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont en train de comprendre que potentiellement, finalement, ça ne concerne pas que des habitants des quartiers ou des militants syndicalistes dans les manifestations de loi travail, mais que ça peut concerner potentiellement n'importe lequel d'entre nous.
Merci Olivier Besançon d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous.
Ce sera le mot de la fin. L'information revient dans un instant.